Suite à un incident technique, il manque les premières minutes de la prédication. Veuillez nous excuser pour le désagrément.
De toutes les choses, les interactions, le repas, le loisir, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'habité. Que la parole de Christ imprègne nos vies, imprègne nos églises. Voilà l'exhortation de Paul, jusqu'à déborder. D'où les implications par la suite du texte. Et comment la parole de Christ habite en nous? Laissons la parole de Christ habiter. Ben, cela se produit par le Saint-Esprit. J'aime beaucoup ce passage parallèle, on est en train d'étudier en groupe de maison Éphésiens 5, et c'est Éphésiens 5, regardez, qu'est-ce que Paul nous dit aussi? Ne vous enivrez pas de vin, donc voilà, on revient dans ces attitudes qu'on doit mettre de côté, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit, et dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur, et ensuite, dans la suite du passage d'Éphésiens, il va parler des couples, il va parler des pères, il va parler du travail, etc., dans les mêmes sujets que Colossiens. Donc on a un peu ce parallèle qu'être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de la parole de Christ, que cette parole de Christ nous habite. En fait, c'est la même chose en quelque part. Parole et Esprit vont ensemble. C'est par le Saint-Esprit que sa parole est inscrite sur nos cœurs et que nos yeux d'ailleurs sont ouverts sur cela. Cette semaine, on était dans les armes que le Seigneur, dans Éphésiens 6, dans les armes que le Seigneur nous a données. Et j'aime beaucoup parce que il est question de l'épée de l'Esprit, et c'est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est interchangeable. Les deux vont ensemble, ça va de pair. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes nourri, habité par la parole de Dieu. On ne peut pas les séparer. Si on sépare, si on n'est que Saint-Esprit, quelque part, on va jouer sur du sentimentalisme, du mysticisme, des choses qui, en fait, je pense que c'est pas possible déjà. Et si vous avez la parole sans l'esprit, on voit un peu ce que ça donne, le légalisme, le moralisme, l'intellectualisme. On va lire la parole de Dieu complètement déconnectée de quelque chose qui se vit dans nos vies. La parole de Christ et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Et je crois que bien des aspects parfois de nos vies personnelles, de nos vies d'église, ça n'avance pas. Parce qu'on néglige cette intimité d'être enraciné dans la parole de Christ. On a tendance à chercher des sensations fortes, un petit shoot émotionnel, des expériences intenses, mais trop courtes pour ancrer dans nos vies des habitudes, pour être habité des vérités de la parole et nous faire avancer dans la vie chrétienne. Si la parole de Christ n'a pas sa priorité, tu n'auras aucun équipement pour affronter les difficultés de la vie. Quand l'épreuve arrive, quelles sont nos fondations? Si la parole de Christ et ses nombreuses promesses n'habitent pas en nous, nous les méditons pas, comment combattre les difficultés, le péché? Comment combattre comment résoudre les conflits? Comment se tenir au travail? On ne connaît pas notre identité si on ne médite pas ce que Christ dit de nous, sur ce que Christ a fait de nous. Si on ne saisit pas la suffisance de Christ et la suffisance de l'évangile, si on ne médite pas sur l'amour de Dieu, ben comment le vivre? C'est pourquoi l'église locale est un lieu par excellence où on est encouragé à voir l'excellence de cette parole qui doit nous habiter et doit nous encourager à grandir ensemble. C'est le point fondamental de Paul, que la parole de Christ habite en vous avec toute sa richesse. Et donc, si cette parole habite avec toute sa richesse, ben, il y a ce deuxième point. Chantons la parole de Christ dans l'église. Je relis que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez le lien? Nous sommes appelés à être des chrétiens qui chantons. Alors, je suis conscient, je le disais tout à l'heure, que la musique, le chant, c'est une question sensible, même dans l'église. Et mes propos vont peut-être interroger. Mais que la parole de Christ demeure dans nos réflexions. Alors, pourquoi est-ce important de chanter? Ici, on a trois raisons. Chanter, c'est un commandement. Chanter est un moyen de nous instruire, de nous exhorter, de nous édifier. Et chanter est un moyen de louer, d'adorer, de magnifier Dieu. Paul ne dit pas « si ça vous motive, chantez ». De la même façon qu'il ne va pas dire « si ça vous motive, Marie, aimez vos femmes ». Non, chanter est une exhortation qui vient nous habiter parce que la parole de Christ nous habite. Cette parole de Christ doit nous amener à chanter. Dieu nous demande de l'adorer, c'est notre réponse. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a 5 éléments que la parole de Dieu nous montre qui doivent être un peu présents lorsqu'on se retrouve ensemble en Église. Bien sûr, il y a la lecture et l'enseignement de la parole, de ce que Christ nous a donné, la prédication. Il y a la place de la prière, de prier les uns pour les autres, de prier Dieu. Il y a la place de la fraction du pain. Il y a la place au chant, comme on le voit ce matin, et à la place aussi à la communion fraternelle, à être ensemble. C'est ça, la dimension culturelle de la célébration qu'on est ensemble le matin. Et le chant fait partie de ce que Dieu nous demande de faire ensemble. Vous savez, il y a plus de 400 références dans la Bible qui parlent du chant, et dont 50 nous disent comme un commandement, chanter, louer. Nous sommes un peuple qui chante parce que Dieu nous a ordonné de le faire, mes amis. Cela fait partie de notre identité. Alors on ne peut pas éviter ce commandement parce que on n'aime pas le style de la musique, ou on n'aime pas les musiciens, ou parce qu'on chante faux. Pour se dire, ah, mais moi, ma voix, elle n'est pas belle. Ma voix, elle n'est pas top. Mais nous sommes tous créés pour chanter, mes amis. Cette voix que Dieu nous a donnée est un cadeau de Dieu. J'aime beaucoup ce livre. J'en ai quelques exemplaires, hein, je vous l'offre. Chantons. Écrit par les Getty, c'est ceux qui ont créé notamment, on chante plusieurs chants d'eux, mais En Jésus seul, par exemple. Et dans ce livre, il y a cette citation. Je vous la lis. Si vous parlez, vous pouvez aussi chanter. Physiquement parlant. En réalité, Dieu vous a conçu pour chanter. Il vous a doté de tout le nécessaire pour le faire et il désire que vous le fassiez. Il se soucie bien moins de la justesse de votre voix que de votre intégrité. Vous voyez le cœur là ? Les chants des chrétiens prennent racine dans le cœur et non sur les lèvres. Notre Créateur fait ce cadeau de nos voix, qui sont tellement différentes d'ailleurs les uns des autres, avec notre accent et tout ça. Bien sûr, on peut chanter partout, hein. En famille, dans votre voiture, sous la douche, dans votre culte personnel. Mais nous sommes appelés à chanter ensemble. Je partage une deuxième partie de la citation. Ne chantez pas principalement parce que vous aimez chanter. Ne restez pas silencieux parce que vous n'aimez pas le faire, donc par rapport au chant. Chantez parce que vous aimez celui qui vous a fait et a façonné, et vous a façonné, et qui vous rend capable de chanter. Chantez à cause de Dieu, car Dieu nous le demande. Premier élément. Deuxième élément, chanter est un moyen de s'instruire, de s'exhorter les uns les autres. Qu'est-ce qu'on fait quand on est passionné par quelque chose ? On en parle. On a envie de partager cette passion. Dans l'église, on sait, il y a des gens qui sont passionnés par le sport, le foot. Hier soir, ça s'est entendu d'ailleurs. On le fait partager. On a de la musique à cœur. On est peut-être féru de théologie. On a envie de réfléchir les choses. Peut-être des films, des Legos, mon fils, c'est les Legos, il vous parlera de Legos, de bricolage, bon bref. Et comment est-ce qu'on sait nos passions ? Parce qu'on en parle. Parce que ça fait, elles nous habitent presque. Et ce qui devrait nous passionner entre nous, c'est notre foi en Dieu. C'est notre reconnaissance pour ce que Jésus a fait. Et cette envie de progresser dans notre marche chrétienne. Et une de nos manières de le faire, c'est de chanter. Et on a envie de chanter ensemble notre passion pour Dieu, notre passion pour l'Évangile, notre passion pour l'œuvre à la croix, et j'en passe. Et c'est là où on s'instruit, on s'exhorte, on s'encourage. Et c'est pas le job simplement du pasteur ou des anciens ou des responsables. On a tous un rôle à jouer de nous partager ces vérités bibliques. Si quelqu'un est en souffrance, qu'on puisse l'exhorter avec des paroles d'encouragement. Si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'on puisse lui donner de regarder là-haut. L'écriture est pertinente dans toutes nos situations de vie. Et le chant, comme nous le dit Paul, est spécifiquement aussi là pour nous enseigner, pour nous édifier. Parce que quand on chante notre passion pour Dieu. Pour Dieu. On le chante à nos cœurs déjà, parce que je trouve que ça fait du bien de nous entendre chanter, dire des vérités. Mais on le chante aussi aux autres, je l'évoque régulièrement, qui sont à côté de nous. Et c'est vrai que quand tu franchis la porte de cette salle Et j'espère qu'on cultivera cela encore dans les années à venir dans cette église, de chanter à Dieu des vérités que ça s'entende aussi. Parce que c'est magnifique de louer Dieu. Parce que ça touche une fibre de notre être. Ça touche nos émotions. Je trouve c'est beau parfois de vivre nos plus jeunes, et je sais que plusieurs ont déjà fait une démarche de foi avec Dieu, et qui chantent avec tellement d'enthousiasme les chants qu'ils ont l'habitude d'entendre et de voir. Ma fille, elle m'a dit la dernière fois, « Papa, moi, j'aime bien savoir le titre du chant parce que j'ai envie de le reprendre à la maison. » Et en ce moment, ils l'ont enlevé, là, quand ils le projettent. Quel genre de chant doit nous habiter ? Paul dit de chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Il y a une diversité, là. Quelques éléments. Je ne vais pas tout développer, mais les psaumes. Dans la Bible, on connaît un peu ce que c'est. C'est quoi le contenu ? On voit que les psaumes sont quoi ? Centrés sur Dieu. Dieu, c'est Dieu qu'on honore, c'est la personne de Dieu. Mais les psaumes ont d'autres sujets aussi. Il est question de la repentance, de se dire, Seigneur, j'ai failli devant toi. Pardonne-moi. Dans les psaumes, on voit de la lamentation, où on a l'impression qu'on déverse son cœur, on déverse ses tripes, littéralement parfois, devant Dieu dans la souffrance. Il y a des psaumes de sagesse où on demande à Dieu de vouloir marcher dans l'intégrité. Il y a des psaumes qui expriment une confiance en Dieu. Je sais que c'est mon appui, un sûr rocher. Et je crois que c'est important qu'on apprenne à chanter des chants qui couvrent toute cette multitude-là, aussi des émotions et des aspects de notre vie chrétienne. Paul parle d'hymnes, de cantiques spirituels. Il y a de la place pour la créativité et la diversité de nos chants. On retrouve dans Philippiens 2, un hymne probablement chanté par les premiers chrétiens. Chanter toutes sortes de chants avec toutes sortes d'instruments, des chants pour nous encourager à persévérer dans la foi, des chants qui proclament l'espérance du ciel, qui proclament que Christ reviendra. Parce qu'au ciel, on chantera aussi. Pas que, mais on chantera. Chanter pour nous édifier et nous instruire. Si le dimanche matin on chante comme on l'a fait à toi la gloire, on chante que c'est à Dieu la gloire, que c'est lui le ressuscité, que c'est à lui la victoire. Chanter, c'est pas simplement le dire à nos cœurs, mais c'est aussi écouter ce qu'on est en train de dire. Vous avez déjà chanté dans un stade de foot? Les supporters chantent ensemble, il y a quelque chose qui se passe, ça fait vibrer. Quand on est dans un concert, moi quand j'étais jeune, j'aimais pas spécifiquement parce que j'avais l'impression, bref, quand 10 000 personnes chantent le même refrain, y a un truc qui se passe. Mais en tant que chrétien, on a beaucoup, beaucoup plus que ça qui nous rassemble. Quand on chante, on est en train de dire, on est unis ensemble autour de Christ. On est unis ensemble avec la même grâce et on a tout ce qu'il faut en Jésus-Christ. J'étais à 2 rassemblements conséquents ce mois de mai, hein, et j'ai été nourri par les temps de chant qui ont été préparés. On a chanté, on était nombreux, ils avaient préparé toute une orchestration, mais ils avaient réfléchi avec soin au chant. Et plus d'une fois, il y avait la prédication, on a écouté Dieu, on a Dieu qui nous a parlé, et après, il y avait des chants qui étaient comme des réponses du cœur. Je vous dis pas combien ça touche. Il y a de très beaux chants. On trouve de nombreux chants aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses. Mais tous les chants ne trouvent pas leur place dans la vie de l'Église. Il y a des chants pour des concerts, il y a des chants pour des chorales, il y a des chants pour des solistes, il y a des chants pour ta playlist à la maison. Mais peut-être parfois pour des raisons de rythme, de longueur de chant, de répétition, il n'y a pas sa place dans le culte. Parce que nos chants doivent plaire à Dieu et qu'on puisse ensemble les chanter. Moi, j'aime pas trop dire un groupe de louanges, j'aime beaucoup dire un groupe qui nous accompagne dans le chant, qui nous conduit à chanter, qui nous conduit ensemble à chanter de toutes nos voix, jeunes et vieux. Et la parole de Dieu nous dit, le chant devrait jamais être une guerre de tranchées, une guerre de louanges. Moi, je pense que ce chant est bien, il faut qu'on chante de telle façon. Non, c'est pas une question de goût musical qui devrait pas être un cheval de bataille. On chante par amour pour Dieu. On chante parce qu'on s'aime et parce qu'on est en communion les uns des autres. Et c'est vrai que le chant, la musique, est indissociablement lié aussi à la culture dans laquelle nous baignons. Hein. Les instruments, le style de musique viennent de notre environnement et de cette grâce qui a été donnée à l'humanité. On est tellement avec quelques notes, on fait tellement de style. Vous imaginez ? Méditez simplement sur ça. Mais on est dans une culture. Quand les psaumes disent « crier de joie », en plus avec une centaine de cymbales et de trompettes, on est dans une culture du Moyen-Orient. Je crois qu'on devrait réfléchir à la manière de l'adapter dans notre culture. Il n'y a pas des instruments qui sont sains et d'autres qui ne le sont pas. C'est l'usage et le cœur qui en est important. Je me rappelle que dans les années 60, on disait la guitare à l'église. Non, 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 c'est pas un instrument pour Dieu, c'est du monde. Dans les années 80, c'est la question de la batterie. Je sais pas qu'est-ce que ce sera dans les années futures. Mais un instrument, c'est pas quelque chose de chrétien ni de diabolique. Une cornemuse, une corne de bélier, vous savez, les chauffards là dans la Bible, c'était des cornes de bélier, ou une guitare peuvent être autant utilisées pour la gloire de Dieu ou non. Tout peut servir à la gloire de Dieu. Il y a des paroles qui honorent Dieu, il y en a des paroles qui ne l'honorent pas. Il y a une musique qui est bonne, et il y en a une musique qui est peut-être moins bonne, selon nos cultures, bien évidemment. Et selon les époques, selon les cultures d'église, on chante différemment. Mais Paul est en train de nous dire, c'est pas tellement ça qui est important. Est-ce qu'on chante la parole de Christ ? Est-ce qu'elle nous habite ? Est-ce que véritablement c'est la parole de Christ ? Est-ce que c'est la vérité qu'on leur chante ? Et Paul dira, ne soyez pas une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église. Donc on doit réfléchir à la manière et à ceux qu'on chante. Certains styles ne seront peut-être pas chantés en Église, d'autres seront favorisés selon le contexte, et je le comprends. Et donc en disant cela, nos chants ne peuvent pas rien dire. Le contenu doit dire quelque chose. Il doit être centré sur Dieu, sur la parole de Dieu, saturé de la parole de Dieu. Ça doit être vrai. La parole de Dieu, quoi ? C'est l'appui et la colonne de la vérité. Et si on veut que nos chants soient des outils d'enseignement, d'encouragement, il faut qu'ils soient, je dirais, je tatillonne un peu, hein, mais irréprochables quelque part. Et je dois reconnaître que c'est pas simple. Depuis que je sers parmi nous dans ma responsabilité, on m'a questionné régulièrement sur l'un ou l'autre champ. C'est pas simple. On doit faire des tri, des arbitrages. Avec Noémie, on travaille ces dernières semaines à sélectionner une liste de chants. C'est pas facile. Entre le rythme, la mélodie, le contenu, etc. Des chants. Nos chants doivent être compréhensibles. On doit pouvoir le comprendre. Parfois, c'est poétique. Et on étudie un peu parfois nos vieux chants d'À toi la gloire. On était poétique, on se disait, mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Ça veut rien dire ou ça veut plus rien dire ? Parfois, on utilise même des bouts de parole de Dieu. On se dit, ben voilà, c'est la parole de Dieu, on la chante. Mais en fait, c'est sorti du contexte, etc. Je prends un exemple. On a déjà chanté un chant dont les paroles disaient, « Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. » Il est question de Dieu. Il y a un autre qui dit un peu la même idée, « Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. » C'est poétique. On sait que c'est des chants entraînants. Il y a une belle mélodie. C'est des chants qui sont populaires. Vous regardez le nombre de vues. Ils cartonnent dans beaucoup d'églises, grâce aux médias. Mais mes amis, ils sont faux par rapport à la parole de Christ. C'est pas parce qu'un chant a une belle mélodie qui nous fait d'ailleurs peut-être parfois du bien émotionnellement, mais est-ce que c'est du bien comme Dieu le demande ? C'est un bon chant. C'est pas parce que c'est un bon chant que c'est juste. Si un chant est bibliquement faux, mes amis, il va nous imprégner, nourrir le cœur, vous voyez le début là ? Théologiquement, en douce d'erreur. Et ce chant-là, les deux paroles là, ça concerne qui est Dieu. En fait, Dieu n'a pas besoin de nous pour nous aimer, ni pour être heureux. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Son amour, il est parfait. Dieu est amour en lui-même. Il est de nature suffisante. Que dire que Dieu est insatisfait parce qu'il lui manque quelque chose, c'est faux. Il n'a pas de vide que nous lui comblons. Alors oui, ces chants sont beaux, mais la beauté ne suffit pas. La parole de Christ doit habiter abondamment, et je pense en vérité et en justesse. Alors vous imaginez que des fois c'est compliqué. Hier soir, je méditais sur ces passages. Hier soir, on était en sortie groupe de jeunes dans un rassemblement avec plusieurs jeunes de la région. Alors heureusement, il n'y avait pas beaucoup de chants que je connaissais, donc du coup, j'avais le temps de regarder les chants. Et j'ai pas pu m'empêcher de relever certaines coquilles. Alors on se dit, c'est pas très grave, mais c'est pas très juste. Je vous dis un autre exemple. Alors oui, Jésus était proclamé, oui, Jésus était au centre, mais on a dit, nous te proclamons roi en ce lieu. Mais je proclame rien du tout. Dieu, il a parfaitement autorité, on le dit, il a toute autorité, tout pouvoir, on l'a chanté dans quelques chants d'ailleurs tout à l'heure. Ça dépend en rien de ma déclaration. Alors oui, que je peux dire, oui, on pourrait se dire, oui, je reconnais que Dieu, il a autorité dans ma vie, que Dieu a autorité dans notre Église, oui, pourquoi pas? Mais de dire, nous proclamons, ben non, on proclame rien du tout, Dieu, il a autorité. On pourrait dire aussi, parfois il y a des chants qui répètent une... Je sais pas combien de... C'était aussi un peu le cas hier soir, mais je le dis comme ça, mais Saint-Esprit descend sur nous. Ben, c'est faux. C'est faux. Il est déjà en nous. Ça manque de clarté, de justesse. Alors qu'on dise que Saint-Esprit, on a envie d'être éclairé par toi, mais c'est pas descend sur nous, il est en nous. Il y a la question qui doit être vécue, qui doit être... Alors, en lien avec la parole de Dieu. Donc, parfois, ça manque de clarté, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait juste, mais attention, nos abus de langage qui peuvent... Mes amis, c'est important de trier. C'est important de trier ce qu'on chante en église. Et en méditant sur ces textes, je me suis dit, je l'aurais pas dit il y a quelques années, mais c'est important aussi de trier ce que vous écoutez chez vous. Je sépare parfois les deux, et je dis, bon, c'est pas grave, il y a des chants qui sont pour la maison. Mais quand je lis un tel passage ce matin, mes amis, on est encouragé à regarder si nos chants disent la vérité. Je le dis en tremblant, hein, parce que c'est pas facile. Si ce chant dit vraiment ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que, je sais pas vous, hein, mais en tout cas c'est pour mon cas, et je crois que c'est pour ça aussi que Dieu nous encourage à chanter, nos chants restent tellement bien dans la tête. Parfois on est après le culte et la mélodie et tout ce qui traîne dans nos cœurs. Bien plus que la prédication. La puissance des paroles des chants et de la mélodie. Les deux associés qui font toucher notre esprit et notre âme quelque part. Combien ça nous aide à retenir? Alors quelle est la théologie? Quelle est la personne de Dieu que disent nos chants? Il y a de belles vérités qui peuvent nous accompagner, qui vont nous imprégner. Donc, c'est pour ça que Dieu nous encourage à chanter. Donc, attention peut-être à ce qu'on chante. Et enfin, troisième élément, chanter, c'est un moyen de louer, d'adorer Dieu, de le mettre à l'honneur. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Dieu nous a touchés dans sa grâce. Nous chantons à Dieu premièrement. On chante en direction de Dieu et nous chantons à Dieu de tout notre cœur. Et parce qu'il nous a pardonné, on peut le faire. On chante avec nos cœurs, mes amis. Elle doit éclater en chant. Si on est rempli de l'Esprit Saint, de la présence de Dieu, cet Esprit nous poussera à exprimer avec nos voix ce que nous avons dans nos cœurs par le chant. Et de cela doit être juste. MacArthur, hein, qui est quelqu'un de très carré, il a dit ainsi, la vie remplie de l'Esprit produit de la musique. Je trouve c'est beau. Rien n'est plus révélateur d'une vie qui est en paix, épanouie dans le Seigneur, d'une âme qui est satisfaite, d'un cœur qui est heureux et qui peut le dire par le chant. Nos émotions, mes amis, sont impliquées dans le chant. Et le chant peut exprimer toute une gamme de réponses, hein, je le disais déjà tout à l'heure. Il peut y avoir l'admiration, il peut y avoir la reconnaissance, parce que nous venons de parler de Christ. Il peut y avoir l'humilité, parce qu'on se rend compte qu'on est petit face à la sainteté, à la majesté de Dieu. J'ai beaucoup aimé d'étudier Daniel. Daniel, il a eu la révélation des temps. Il a eu beaucoup de choses de relation. Dieu lui a beaucoup parlé. Et en fait, il a pas fait le fier. Hein. Il tremblait. Il avait peur face à la puissance de la parole de Dieu. Il y a quelque part de la crainte face à la majesté de Dieu. Donc, oui, chanter de joie, de crier de joie et tout ça, bien évidemment. Mais voilà, il y a aussi le respect de la personne de Dieu. Est-ce qu'on met du cœur dans nos chants? Alors, en disant tout cela, vous voyez la logique qu'on peut pas avoir, on va dire, un répertoire de 1000 chants. C'est impossible. Parce que sinon, ça veut dire, on chante, je crois, en moyenne 300 chants et encore 250 chants dans l'année. Mais vous imaginez 1000 chants et alors, du coup, ça veut dire qu'on les connaît pas, on les découvre dimanche après dimanche. Ça veut dire qu'on peut pas se joindre parce que, voilà, on peut pas se joindre avec nos voix à ce qui est proclamé. On peut l'écouter. Alors, parfois, il est bon d'écouter, bien évidemment. Donc, mon exhortation, c'est pour cela qu'on travaille à faire une liste de chants qui va être amenée à s'alimenter et à certains chants qui vont laisser de côté. Mon exhortation, on doit s'entendre chanter, on doit chanter ensemble, on doit voir ce qu'on chante, on doit vivre ce qu'on chante, on doit chanter ce qui honore Dieu. Que cela soit compréhensible, y compris par quelqu'un qui nous visite et se dit, ben, waouh, je comprends ce qu'ils sont en train de chanter, j'ai l'impression qu'ils le vivent. Tiens, ils sont en train de pleurer sur leur état de cœur qui est difficile dans la situation de notre monde, etc. Cette cohérence entre le chant et ce qu'on est en train de vivre est importante, et je crois que ce texte le souligne par excellence. Un peuple qui chante la parole de Christ. Je terminerai juste avec une exhortation, c'est pas parole de Dieu, en écoutant une exhortation du pasteur Florent Varac sur la question du chant. Il disait ça par rapport au chant, il disait qu'on devrait toujours viser la nouvelle génération. Pourquoi ? Parce que la nouvelle génération a besoin de repères lorsqu'on chante ensemble. C'est eux qui ont besoin de repères pour se sentir à l'aise dans l'église. Les chrétiens matures qui sont là depuis des années savent pourquoi ils sont là. Ils savent pourquoi ils chantent. Ils savent pourquoi ils chantent la parole de Dieu. Donc, en fait, nous les plus âgés, je me mets dedans, on devrait être parfois à l'aise de chanter dans un style un peu plus moderne. Parce qu'en fait, on sait pourquoi nous on est là, pourquoi on chante les vérités de Dieu. Peut-être que c'est le nouveau croyant ou le jeune à côté de moi ou celui qui découvre l'église qui doit se dire, doit avoir cette cohérence avec notre culture de notre vie et qui, en fait, même avec, de façon très expressive, avec les instruments que Dieu nous donne aujourd'hui, un piano électrisé et puis une guitare, un violon et tout ce qu'on voulait, des micros et que voilà, c'est pertinent. Je trouvais pertinent sa réflexion, mais on a de la place pour la diversité, bien évidemment. Et je termine. Parce que voilà, ça s'enchaîne, il y a ce troisième point dans le verset 17, « Vivons la parole de Christ en fait partout ». Le chant est au centre, mais c'est partout, et vous le verrez dimanche prochain, mais Paul le souligne, la parole de Christ doit demeurer en nous, doit grandir. Elle s'exprime par le chant, mais partout. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Moi, c'est le garde-fou, là. Dans le culte, comme dans le reste de la semaine, du lundi au samedi, on doit être là pour la gloire de Dieu, partout. Toute ma vie doit contribuer à louer Dieu, à exprimer d'ailleurs de nouveau la reconnaissance. C'est seulement la cinquième fois que Paul nous parle en quelques lignes de la reconnaissance dans cette lettre. Reconnaissance. Pour nous Français, on doit l'entendre. Par le chant, je loue Dieu. Lorsque j'apporte une prière, je loue Dieu. Lorsque j'amène une offrande financière dans l'urne pour le Seigneur, pour l'Église, je loue Dieu. Lorsque je rends un service à quelqu'un, je loue Dieu. Lorsque je vais le visiter, je loue Dieu. Lorsque je vais lundi au travail, je loue Dieu. Notre culte à Dieu ne s'arrête pas à 11h30 ce matin. Et c'est l'une des plus grandes redécouvertes d'ailleurs de la Réforme. Le culte, c'est le service à Dieu dans l'ensemble de la vie, dans notre vie. Lorsque je travaille de mes mains, je loue Dieu dans mon attitude. Lorsque je me consacre à ma famille, je loue Dieu dans ma manière de faire. Quoi que vous fassiez, c'est pas restrictif. Chacun, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Mais quoi que vous fassiez, dans notre manière de parler, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière d'interagir, faites-le pour honorer Dieu. C'est simple, mais à la fois c'est un peu effrayant parce que c'est pour l'honneur de Dieu, hein. Ça doit refléter Christ, le nom de Dieu. Je suis tellement reconnaissant qu'il y a la grâce qui nous permet de respirer quand on échoue à représenter Christ dans nos vies. Quand on échoue dans notre manière d'être, d'honorer Christ. Quand on échoue dans notre témoignage parce qu'on aimerait parler de Dieu. Au travail, on a fait, je sais pas si vous aviez la fête des voisins, mais... Enfin, elle me dit, on a eu le prospectus dans la ville. Est-ce qu'on fait une fête des voisins? C'est un peu tard, on n'a pas le temps de s'organiser. Moi, je dis, j'ai plein de choses, j'ai pas envie. Puis mon excuse était, j'ai pas envie de quoi? D'honorer Dieu? Seigneur, pardonne-moi. Jésus, Dieu s'intéresse à tout. Matthieu 5, hein, ces paroles de verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Et il y a la notion du culte, là. Hein. Et la notion des relations, il y a la notion que tout doit être honoré. Le nom de Dieu, ma vie concrète, ne peut être masquée par ma piété du dimanche matin. Je m'arrête là avec deux remarques. On vient parfois au culte en se demandant « Qu'est-ce qu'il y a pour moi au menu ? Quels sont les chants qu'on va chanter ce matin ?» Et je viens aussi pour cela, hein. Pour recevoir. Quel est le texte de la prédication ce matin? Quel est les chants que l'équipe a choisi? J'ai besoin de ressourcement. Il y a de cela dans le culte, bien évidemment. Mais la louange, mais l'adoration, mais le culte, mais le service, mais l'engagement, la célébration, c'est ce que je viens donner au Seigneur. Qu'est-ce que je donne à Dieu ? Alors ma question ce matin, c'est comment vous contribuez à honorer Dieu, à louer Dieu ? Et on peut le faire assez facilement ensemble, en chantant. Vous voyez la logique ? Chacun apporte sa contribution si on chante d'une voix de casserole ou pas. C'est pas important. Dieu voit nos cœurs. Seigneur, je viens apporter une grâce, un encouragement, une bénédiction. N'allons pas au culte, nous dit Alfred Kuhn dans son commentaire sur le culte, pour chercher quelque chose, mais pour apporter à Dieu l'hommage qui lui est dû, l'honneur qui lui est dû. On ne viendra pas devant l'Éternel les mains vides, nous dit déjà Dieu dans Deutéronome, dans cette fameuse loi de Dieu. C'est vrai, on a vu l'importance de la parole de Christ qui doit habiter, qui doit nous habiter, qui doit être intimement liée à nos vies, avec une place de choix, la place d'honneur. Et celle-ci doit avoir cette place aussi dans l'Église. Et une façon de le faire, c'est de chanter la parole de Christ, de le chanter avec justesse. Elle doit imprégner nos pensées, elle doit imprégner ma prédication. C'est la parole de Christ. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est ces deux versets. Méditez-les, ils sont faciles à mémoriser. Je vais prier, puis j'invite l'équipe de louange à me rejoindre. Je les ai encouragés à laisser deux chants pour après la prédication. Par que quelle manière, meilleure manière de terminer l'honneur à Dieu que de chanter. Venez derrière moi et puis je vais prier pour nous.